Donc on est dans l'Épître aux Romains et c'est le chapitre 9. Ma présentation n'est pas, je vais dire, typique. Okay? Donc vous ne serez peut-être pas d'accord avec l'optique que je vais présenter pour ces trois chapitres. Romains chapitre 9, dans la façon que je le comprenne, c'est une illustration, ok? Une illustration de la nécessité de croire en Jésus-Christ. C'est plusieurs illustrations. Donc, Paul a déjà expliqué le problème du péché. Donc, Dieu a créé le monde, l'homme est tombé dans le péché, on a gâché tout, on est devenu des païens partout dans le monde. Et puis, voilà que Dieu a envoyé le Christ pour sauver les pécheurs. Et quand on est sauvé à l'extrême. Il n'y a pas de possibilité qu'on va faire quelque chose qui va fâcher Dieu, il va nous faire perdre. Non. Donc, ça, c'est Romains chapitre 1 à chapitre 8. Chapitre 9, 10 et 11, c'est un sujet entièrement différent. C'est Israël. Mais Israël, dans le sens spécial, que voilà, il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. C'est ça, trois chapitres sur la nécessité de croire en Jésus-Christ. La nécessité de la foi. Donc, ces trois chapitres, 9, 10 et 11, concernent Israël. Et Dieu a promis de sauver les Juifs. Les Juifs qui acceptent le salut. Donc, Dieu leur a confié les Écritures. Il leur a envoyé les prophètes. Il a même envoyé le Christ. Et Jean, chapitre 1, verset 11, dit, « Elle, la parole ou la lumière, est venue chez les siens, donc chez le peuple d'Israël, et les siens ne l'ont point reçu. » C'est un problème. Dieu est venu chez eux, l'incarnation, Emmanuel. Et au lieu d'accepter le Messie, ils l'ont crucifié. On parle du peuple. Ce n'était pas tous les Juifs qui ont tué Jésus. C'était ceux qui ont tué Jésus au nom du peuple d'Israël. On voit les sentiments du Saint-Esprit concernant le peuple d'Israël à travers Paul dans chapitre 9, 10 et 11, et le premier et quelques versets dans chaque chapitre. Donc, chapitre 9, verset 1. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » À propos d'Israël non-croyant. Romains chapitre 10, verset 1. « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire les gens d'Israël, c'est qu'ils soient sauvés. » Et puis Romains chapitre 11 et le verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Eh bien, beaucoup de monde va dire oui. Mais ils n'ont pas lu le reste des phrases. Loin de là, dit le texte de la parole de Dieu, car moi aussi je suis Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Non, Dieu n'a pas rejeté le peuple. Mais il ne sauve que ceux qui croient. Dieu ne peut sauver que ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu est fidèle envers le peuple d'Israël. Car les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. Dieu va accomplir ses promesses envers ceux d'Israël qui ont eu confiance en Jésus-Christ, leur Messie. Ces Juifs qui croient en Jésus-Christ, aussi bien que nous, les non-Juifs, qui croient en Jésus-Christ, nous, ensemble, nous sommes le peuple de Dieu. Dans Romains chapitre 8, nous avons vu ce que Dieu prépare pour son peuple, ce que Dieu prépare pour nous. En attendant le Seigneur Jésus pour nous enlever, ok? Nous avons le privilège et la responsabilité de le représenter dans l'objectif divin de sauver le plus grand nombre. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 20. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 20. Donc le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur, ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc on voit que Dieu veut sauver les gens et il nous envoie pour que les gens soient sauvés. La question, si vous êtes croyant, il dit que la parole de la réconciliation est en vous, en moi et en vous. Et donc, voilà la question. Avez-vous partagé votre foi? Avez-vous parlé de Jésus? Avez-vous invité quelqu'un de venir à l'Église? Dieu sera toujours fidèle envers son peuple. En revanche, Dieu met les chrétiens, ça c'est nous, il nous met en garde contre l'orgueil et l'incrédulité. Ça va se voir plus dans le chapitre 11. Le signe principal de l'approche du Seigneur, c'est l'apostasie des chrétiens. Le fait que les chrétiens se détournent de Jésus pour suivre d'autres routes, comme les Juifs d'autrefois se sont détournés de leur Messie. Ils ne l'ont pas reçu quand il est venu chez eux. Donc, dans les derniers chapitres, chapitres 1 à 8, la parole décrit les dégradations du péché chez l'humanité, ainsi que l'immense amour de Dieu envers les croyants. Et Dieu y tient ses promesses. Dieu est fidèle, Dieu sera toujours fidèle. Ça, c'est déjà un point capital, il faut le retenir. Dieu est fidèle. Maintenant, dans le chapitre 9, Paul va insister sur l'importance de la foi, la confiance en Dieu, ce Dieu créateur tout-puissant. Il faut croire en Jésus-Christ. Donc, globalement, le chapitre 9 focalise sur le droit de Dieu de faire des choix selon son souveraineté. Il est Dieu. Il peut décider. C'est lui qui fixe les règles. Ainsi, Paul va nous expliquer ce fait en utilisant plusieurs illustrations. Donc, on va être maintenant dans Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Donc je vais arrêter là. Okay? Donc Dieu, à travers les mots de Paul, c'est Dieu qui exprime son désir que les Israélites soient sauvés. Mais ils ne peuvent pas être sauvés sans une foi personnel, individuel, en Jésus-Christ. Ils peuvent vouloir les sauver, mais eux, ils doivent accepter l'Évangile. Continue dans le verset 4. À qui, donc les Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches? Et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Toutes ces promesses qu'il mentionne ici sont enregistrées dans les Écritures que le Seigneur a confiées au peuple d'Israël. Jésus lui-même était un Juif. Quel privilège, quelle opportunité pour connaître Dieu. Si on était élevé dans une famille juive, eh bien, on avait toutes les opportunités de connaître Dieu. Pourtant, puisqu'on obtient les promesses de Dieu par la foi en Christ, peu d'Israélites en profitent. Pourquoi? Par manque de foi en Christ. Donc, ce sont surtout nous, les non-juifs, les païens, qui bénéficient des promesses en Christ. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. En effet, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. On va arrêter là, au milieu du verset 7. Donc, Paul insiste ici qu'il y a toujours quelques Israélites qui se tournent vers Jésus. Malheureusement, c'est l'exception et non pas la règle. Jésus lui-même, en parlant de leur héritage génétique, a dit aux Juifs dans Jean chapitre 8 et verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Il parle de leur génétique. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Puis un peu plus loin, Jésus lui dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et là, il parle de leur état spirituel et moral. Encore par la suite, Jésus parle de leur nature spirituelle non régénérée. « Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et puis encore un peu plus loin, dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus dit que leur père était le diable. Donc il déjà dit, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Il dit, « Votre père, c'est le diable. » Donc il dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Les Juifs qui contestaient avec Jésus agissaient selon la chair, selon leur nature humaine. Ils avaient l'héritage génétique d'Abraham, mais ils n'avaient pas la foi d'Abraham. Okay? Ils étaient encore à ce moment-là les enfants de colère. Alors on sait que dans l'Acte des Apôtres, il va y avoir beaucoup de Juifs qui vont se convertir, il y a beaucoup de prêtres qui vont se convertir à Jésus. Mais ce jour-là, eh bien, ces gens-là étaient contre Jésus. N'est-ce pas vrai qu'un bon enfant essaie de plaire à ses parents? Jésus a dit, « Vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Comment pouvait-il quitter le diable, changer de côté pour être sauvé? Parce que là, ils étaient bien dans la voie de perdition. Jésus a expliqué le problème. Il a dit, « Ma parole ne pénètre pas en vous. » On a dit tout à l'heure avec Greta, « C'est pas ici que ça compte le plus. Il faut que les choses entrent dans l'intelligence. Mais il faut qu'on les reçoive par la foi dans le cœur. » « Ma parole ne pénètre pas en vous. » Seulement quand la parole de Dieu pénètre dans une personne, peut-elle se convertir à Jésus. C'est la confiance que l'on a, que l'on met dans la parole de Dieu qui engendre la nouvelle naissance. On va continuer dans le verset 7. Mais il est dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ismaël, le premier-né d'Abraham, a été conçu dans l'incrédulité, selon la chair. Bien sûr, ce n'était pas sa faute. Lui est le résultat de cette incrédulité, n'est-ce pas? Cependant, Dieu avait fait sa promesse à Sarah. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Jamais personne n'a été sauvé par la foi de leur famille. Chaque personne rendra compte à Dieu pour lui-même. Cependant, vous, les parents, et je ne sais pas ici, mais en ligne, peut-être quelqu'un sera touché par son pensée. Les parents, vous avez les responsabilités quant à l'éducation de vos enfants. Dieu attend que les parents enseignent aux enfants la voie de Dieu afin que les enfants puissent croire en lui et vivre pour lui. Mes amis, vos enfants vont devenir les adultes que vous aurez formés. C'est vous qui tenez l'arc et la flèche va aboutir là où vous aurez visé. Il n'est ni sage ni bon que vos enfants grandissent seulement dans les voies du monde, des distractions, des amusements et des influences de l'athéisme. Tout cela les éloigne de Dieu. Ne voulez-vous pas que vos enfants profitent des promesses de Dieu, que vos enfants soient sauvés? Vous ne pouvez pas sauver vos enfants tout en les écartant de la connaissance du véritable Dieu. Un Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse. Seulement les enfants qui ont confiance dans la promesse de Dieu, dans les promesses de Dieu, seront sauvés. Il faut qu'on mette devant nos enfants les promesses de Dieu pour qu'ils puissent croire. Verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Il fallait simplement croire à la promesse de Dieu. Donc, la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut d'un seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, donc il dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc il dit, il fut dit à Rebecca, l'ainsi sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Et la réponse est loin de là. Non, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Donc reprenons cette phrase, le dessein d'élection de Dieu. Cette phrase signifie la descendance généalogique du Christ, le Sauveur. Depuis toujours, Dieu avait à cœur de sauver l'humanité par l'incarnation et puis la mort et la résurrection du Sauveur. Une élection parle d'un mandat, ce que la personne élue doit accomplir. Dieu a confié, Dieu a donné à Abraham le mandat, puis à Isaac, puis à Jacob, puis à Judas, etc. La descendance qui devait faire venir le Christ dans le monde. Ça, c'était l'œuvre à faire. C'était important que Christ arrive. C'est surtout pour cela que l'acte de Onan, le cadet de Judas, était si terrible, parce qu'il mit à risque la naissance du futur Christ. Notons que ces versets ne parlent pas du tout du salut des individus. Paul parle, le sujet ici, c'est les choix que Dieu fait. Dieu n'a pas voué Esaü à l'enfer. Ça n'est pas dit ici. Okay? Et il n'a pas prédestiné Jacob au paradis. Ça n'est pas le sujet ici non plus. Dieu devait faire un choix souverain concernant le progéniteur du Christ, soit l'un, soit l'autre des jumeaux. Il n'y a point d'injustice dans le fait de ce choix qui est décrit par ces mots « amour » et « haine ». Ça nous choque, mais c'est une façon que Dieu s'exprime dans cette chose. Ce choix n'était ni moral, ni émotionnel. Les jumeaux n'avaient fait ni bien, ni mal. Donc Dieu n'était fâché avec aucun. OK? Ni l'un ni l'autre. Le choix dépendait uniquement de la volonté de celui qui appelle, de celui qui fait le choix. Pour aucune raison, sauf sa volonté, Dieu a préféré, donc il a aimé, que ce mandat tombe sur Jacob. Voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, j'ai choisi le second, le cadet. N'ayant qu'un seul choix, Dieu n'a pas pu préférer aussi Esaü. Ce n'était pas possible. Il fallait choisir l'un ou l'autre. Ce manque de préférence est décrit comme la haine par rapport à l'amour. Il a choisi l'un, il n'a pas choisi l'autre. Par exemple, quand un jeune homme se marie, il ne peut pas continuer à aimer toutes ses copines. Il a choisi une femme et il n'aime que elle. Il haït toutes les autres, il délaisse les autres, il ne les aime pas. Et c'est dans ce sens-là qu'il aime Jacob et il haït Esaü. Dans ces versets, Paul parle de la merveilleuse opportunité que le peuple d'Israël a eue pour connaître Dieu. Rappelez qu'on a vu dans Romains chapitre 3, je vais lire le verset 1 à 3, Romains chapitre 3, verset 1 à 3. Donc verset 1, « Quel est donc l'avantage des Juifs ? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Dieu n'a pas choisi d'établir cette relation, ni avec les Égyptiens, ni avec les Canadiens, ni les Brésiliens, etc. Non, seulement avec le peuple d'Israël. Et puis Romains chapitre 3, verset 3 dit, « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? » La réponse, bien sûr, est non. Dieu est fidèle. On a déjà posé ça tout à l'heure. Dieu est fidèle à ses promesses et aux croyants. Mais la grande majorité du peuple d'Israël est restée dans l'incrédulité, malgré tous les efforts de Dieu. Ils ne profitaient pas de leurs avantages. Dans Ésaïe chapitre 65, versets 2 et 3, Dieu décrit Israël comme un peuple qui résiste toujours au Seigneur. Il parle du peuple, pas de l'individu, mais du peuple. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, en parlant de leur pratique de paganisme. Bien que Dieu a donné tous les avantages, ils insistaient comme un peuple pour suivre le paganisme. Concernant les privilèges et opportunités du peuple d'Israël, non seulement Dieu a-t-il premièrement choisi les ancêtres du peuple d'Israël comme avenue pour l'arrivée du Sauveur dans le monde, mais il a aussi manifesté sa miséricorde envers eux. Donc verset 15, « Car il dit à Moïse, Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, contexte, on parle toujours de c'est Dieu qui a le droit à faire ses choix. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment il doit choisir. Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne s'achète pas. Et Dieu n'est pas obligé non plus de faire grâce. Il manifestait sa miséricorde envers Israël parce qu'il a voulu montrer son amour envers son peuple. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. En même temps que Dieu a choisi de montrer son amour à Israël, il a aussi choisi de démontrer sa puissance à Israël, mais aussi au monde entier à travers Pharaon. Jacob, ainsi que Pharaon, ont été choisis, tous les deux, donc élus, pour accomplir une œuvre. Ils avaient un mandat, si vous voulez. Ces œuvres n'avaient pas de lien avec le salut de l'âme. Pharaon aurait pu se convertir. Il ne voulait pas. Il était contre Dieu, mais il aurait pu se convertir. Paul parle ici du droit de Dieu de faire des choix divins afin d'accomplir son plan. Verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu formé ainsi? Donc la réponse est simple, c'est le potier qui décide l'utilité de la fabrication. Mais c'est le même argile. Nous sommes tous de la même humanité, mais nous ne rendons pas tous le même service à Dieu. Chacun a son utilité, chaque pays ses frontières. Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Donc ce mot vil veut dire une utilisation déshonorante. Donc un pot d'argile peut servir pour, par exemple, retenir de l'eau, donc c'est honorable. Et un autre pot du même argile peut être façonné pour servir à une utilisation déshonorante ou vile. Aujourd'hui, on dirait quelque chose comme ça, la porcelaine sert à fabriquer aussi bien les tasses de thé que les toilettes. Donc, honorable et vile. Verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Alors, ce mot perdition, c'est destruction, perte, condamnation, etc. Comme Jean dit dans son évangile, la colère de Dieu demeure sur eux. L'Égypte païenne ne pouvait pas exister à perpétuité. Dieu supporte les nations ou les peuples méchants jusqu'à une limite, mais pas au-delà. Comme on supporte le pot de chambre pendant un temps, bien qu'il est destiné à la décharge, de même Dieu retient sa colère jusqu'au moment propice pour faire connaître sa puissance. Encore faut-il noter que le contexte ici concerne comment Dieu agit avec les nations et non pas avec les personnes, mais les peuples. Ceci devient clairement évident à partir du verset 25, où nous trouvons les mots « les peuples », « Israël », »,« les païens », etc. Verset 23. « Et il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Donc Dieu, dans sa divinité, savait d'avance que de nombreuses personnes de beaucoup de pays se convertiraient à l'Évangile, comme nous. OK? Comme pour Israël, seulement les convertis de chaque nation peuvent bénéficier de la gloire céleste. Ce n'est pas la nation en soi, mais c'est les convertis dans la nation qui vont au ciel. Paul invoque ici la gloire dont il a parlé dans Romains chapitre 8, la gloire céleste de ceux qui ont confiance en Jésus-Christ, le Messie. Dans l'Apocalypse, il va dire que dans la gloire céleste, il y aura des personnes, des représentants de tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues. Verset 24. Ainsi, nous, et nous, c'est les croyants en Jésus-Christ, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est écrit en Osée, j'appellerai mon peuple, donc vous voyez, peuple, on revient à cette question de peuple. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celui qui n'était pas le bien-aimé. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Donc ces versets 24 à 26 insistent que Dieu, par Jésus-Christ, accepte les convertis de toute nation, toute langue et tout peuple, tous les peuples. Verset 27. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre, c'est-à-dire exterminés. » Donc dans ces versets, Dieu il se lamente du fait que très peu d'Israélites seront sauvés. Il y aura toujours quelques-uns sauvés, mais très peu. Verset 30. « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi, parce que cette loi n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché, non pas la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et une roche de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. La pierre d'achoppement, c'est Jésus. Les gens qui veulent être bien vus par Dieu se donnent des lois à respecter, leurs propres lois. Et même si Dieu n'est pas impressionné, eux, ils se sentent bien à eux-mêmes. Au moins, je respecte mes trois règles. Donc, en fin de compte, la grâce de Dieu ne les intéresse pas. Jésus dit dans Matthieu chapitre 9, versets 12 et 13, que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Avec leur loi et leur sacrifice, avec leurs pratiques religieuses et leur méditation, les gens se sentent bien. Mais ce bonheur est seulement humain. Une anesthésie pour ne pas sentir les obligations morales et les conséquences du péché. Mais les malades, les gens qui reconnaissent que ça ne va pas, c'est à eux que convient l'Évangile. L'Évangile, c'est le médicament pour l'âme. Ils savent que les pratiques religieuses, les règles et les sacrifices ne peuvent pas franchir le gouffre qui les sépare de Dieu à cause de leur humanité et de leur péché. Dieu, il est souverain. Il a le droit de faire des choix divins. Les vases d'argile sont formés d'une même pâte, mais sont désignés à des utilités diverses. De la pâte de l'humanité, Dieu a choisi le peuple d'Israël pour transmettre les Écritures et pour générer le Sauveur, tandis que les nations sont restées sans révélation. Plus tard, il va dire sans intelligence. Sans intelligence, Dieu n'a rien dit à ses autres peuples. Israël avait de grands avantages sur les autres nations pour connaître Dieu, mais très peu du peuple d'Israël croit en Jésus-Christ. Dans son souveraineté, Dieu n'a pas choisi de servir d'Ésaü et sa postérité pour révéler les Écritures. Il n'a pas choisi non plus les autres nations, dont leur pratique était bien décrite dans Romains chapitre 1. Cependant, en ce qui concerne le salut, Dieu sauve aussi bien les croyants des nations qui croient en Jésus-Christ que des Juifs qui croient en Jésus-Christ. Le salut est possible, mais seulement par la foi en Jésus-Christ et jamais par les œuvres. Donc nous qui sommes des peuples non-juifs, eh bien nous devons remercier Dieu de nous avoir sauvés et de nous faire profiter de ses promesses. Il a dit que toutes ses promesses étaient données au peuple d'Israël, mais nous profitons parce que nous avons confiance en Jésus-Christ. Frères et sœurs, en reconnaissance, soyons ambassadeurs, fidèles. C'est notre raison d'être. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, nous lisons « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, donc c'est un genre de haute responsable, haute serviteur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Je veux terminer avec une citation, c'est un encouragement du Seigneur Jésus qui se trouve dans Matthieu 24, verset 44. Par la suite, on va chanter, puis on va partager le repas du Seigneur. Donc, je lis dans Matthieu 24, verset 44. Verset 44. « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. » Okay, donc c'est un encouragement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne une bonne semaine. Okay. Au revoir, frères et sœurs qui sont sur Internet. Et à bientôt.